Le journal, Yves Decamp.
Bonjour. 10 morts, une trentaine de blessés, dont 8 pompiers dans l'incendie d'un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris en pleine nuit. Incendie extrêmement violent, probablement d'origine criminelle, comme l'a dit Rémi Hetz, le procureur de Paris, qui était sur les lieux très tôt ce matin.
Une personne qui habite l'immeuble a été interpellée. Il s'agit d'une femme de 40 ans qui présentait des antécédents psychiatriques. Et donc cette femme a été interpellée dans la rue immédiatement après l'incendie.
La suspecte aurait agi par vengeance après une dispute entre voisins. Paris est en deuil, a réagi la maire de Paris Anne Hidalgo, qui s'est rendue sur place, comme le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Invité de ce journal, le lieutenant-colonel Gabriel Plus, des pompiers de Paris. Du rouge et du jaune pour la journée de grève et de manifestation lancée par la CGT, à laquelle se sont joints des gilets jaunes pour les salaires et la justice fiscale. Des ronds-points et des péages ont été bloqués ce matin, notamment dans le sud. Ils ont été plusieurs centaines de manifestants à Marseille et à Lyon. À Paris, ce sera cet après-midi. Dans ce journal également, la loi anti-casseurs à l'Assemblée tout à l'heure. Une trentaine de députés La République En Marche ne la voteront pas, jugeant l'arsenal existant suffisant, à condition de l'appliquer, bien sûr, Sarah Guibaudot.
Et parfois plus facile à dire qu'à faire. Illustration avec ces militants d'extrême droite, condamnés à des peines assez légères, faute de preuves, début janvier, et qui sont retournés dans les cortèges parisiens du samedi pour se battre avec des militants de l'autre bord.
À l'étranger, une messe en plein air pour le pape François dans le grand stade d'Abu Dhabi devant 150 000 fidèles. C'est une première en pays musulman. Et puis la journée de prévention contre le suicide, l'occasion de rappeler que les suicides continuent à faire 3 fois plus de morts chaque année que les accidents de la route. Ce sera la chronique santé de Daniel Messager. La météo, bonjour Élodie Calac.
Bonjour à tous.
Encore beaucoup de nuages sur la moitié ouest.
Et oui, en prime un petit peu de pluie sur la Bretagne, sur le sud-ouest également. C'est du soleil de la Méditerranée au nord-est, des éclaircies aussi de l'Auvergne vers Champagne-Ardenne. Température en hausse de saison, 7 à 10 degrés le plus souvent et jusqu'à 10 à 16 près de l'océan et en Méditerranée.
Le bulletin météo, bien sûr, en fin de journal.
France Inter.
Les images sont impressionnantes. C'est un incendie particulièrement violent qui s'est donc déclaré en pleine nuit dans un immeuble du 16e arrondissement de Paris, un peu avant 1h. Incendie probablement criminel. Une résidente de 40 ans qui présente des troubles psychiatriques a été arrêtée. Et le bilan est lourd. 10 morts, une trentaine de blessés, dont 8 pompiers, Rémi Brancato.
Oui, le bilan n'a fait que s'alourdir depuis le déclenchement de l'incendie à 1h dans la nuit. Les pompiers étaient plus de 250 à lutter contre les flammes. Une nuit cauchemardesque pour la cinquantaine d'habitants évacués. Des habitants qui, pour certains, reviennent ce midi hagards sur les lieux du drame, comme Thomas, cuisinier. Il loue un petit studio dans cet immeuble. C'est son alarme incendie qui l'a alerté.
J'ai vu la fumée qui rentrait dans l'appartement à pleine vape. Donc j'ai toqué chez les voisins, je suis passé par la fenêtre parce que le couloir était impraticable. On est resté une bonne demi-heure chez les voisins et quand les pompiers sont arrivés, le carrelage commençait à chauffer. Donc là, c'était vraiment le moment de venir nous chercher. Nous, on était au 5e, donc au 6e, au 7e, au 8e, donc il y avait des gens sur les toits et tout. Et la personne au-dessus de nous, le plafond commençait à fondre. Elle a eu la main brûlée, les cheveux brûlés. Les pompiers ensuite se sont tous agglutinés dans la cour. Ils ont monté les étages avec les échelles et nous ont sauvés comme ça au compte-gouttes.
Comment vous vous sentez là quelques heures après?
En vie.
Thomas, qui assure avoir vu un homme se défenestrer. Les pompiers ont eu du mal à intervenir avec leurs échelles dans cet immeuble situé dans une cour. Les pompiers qui ont trouvé des habitants au balcon, aux fenêtres et même sur le toit de cet immeuble de 8 étages où ils s'étaient réfugiés. C'est ce qu'a vu cette autre habitante qui vit de l'autre côté de la rue.
Au porte-voix, ils ont calmé la situation, mais maîtrisé la personne qui était prête à sauter de la terrasse. Et c'était ça qui était effrayant, c'était les cris en fait.
Son immeuble a servi de refuge une partie de la nuit pour les rescapés, des rescapés qui pour certains sont hébergés à la mairie du 16e arrondissement.
Alors une femme habitant l'immeuble a été interpellée en état d'ébriété au moment où elle tentait de mettre le feu à une poubelle et à une voiture. Une femme de 40 ans qui présente des troubles psychiatriques et qui pourrait avoir voulu se venger d'un voisin, Rémi.
C'est en tout cas ce que disent ici tous les habitants rencontrés ce matin. Ils confirment d'abord des cris, une dispute qui serait intervenue peu avant l'incendie. Thomas les a entendus, ces cris très distinctement.
On a entendu une violente dispute aux alentours de minuit et demi, de la vaisselle cassée, des insultes. Il paraît qu'elle était connue de la copropriété apparemment pour des troubles psychiatriques.
Des troubles psychiatriques confirmés, vous l'avez dit, par le procureur de la République de Paris, Rémi Heitz, qui s'est déplacé sur les lieux tôt ce matin, tout comme les ministres Christophe Castaner et Julien de Normandie, ainsi que la maire de Paris, Anne Hidalgo. La rue, ici, a retrouvé un semblant de calme, avec tout de même un périmètre de sécurité maintenu et des pompiers qui poursuivent les recherches dans l'immeuble.
Rémi Brancato avec Georges Thau. Une enquête a donc été ouverte pour destruction volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Enquête confiée à la police judiciaire. Invité de ce journal, le lieutenant-colonel Gabriel Plus, porte-parole des pompiers de Paris. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on vient de l'entendre, plus de 5 heures d'intervention pour les pompiers, dont 8 font partie des blessés. C'était vraiment extrêmement violent.
C'est une intervention hors norme, absolument. On peut faire le parallèle avec d'autres interventions en 2005, qui, notamment celle de Paris Opéra, rue de Provence, a fait 28 morts, dont 11 enfants. Voilà, c'est quasiment similaire parce que l'engagement se passe en pleine nuit. Il faut passer un premier immeuble qui donne sur rue, accéder à la courette, découvrir les fenêtres allumées, les appartements qui flambent, et tout de suite poser ces actes réflexes qui visent à établir des échelles, les prolonger avec les échelles à crochets, pour aller chercher ces personnes, alors en risquant sa peau clairement.
Vous n'avez pas pu utiliser les échelles des engins?
Non, puisque l'immeuble n'est pas sur façade. Les immeubles haussmanniens sont aussi dans cette configuration-là. Il s'agit de rentrer d'abord par le porche et ensuite d'accéder à cette courette intérieure pour toucher les façades concernées. Là, on est dans cette situation-là et on s'entraîne pour ça chaque jour. Chaque jour, on s'entraîne avec ces échelles à goulis, ces échelles à crochets. L'échelle à crochets, elle date d'environ 100 ans. Donc c'est quelque chose de très rustique. C'est des échelles en aluminium légère, mais avec qui sollicite l'entraînement physique, un état de santé hors pair, et c'est le cas des pompiers de Paris. Ils sont militaires, ils ont cette jeunesse, cette obligation de disponibilité. C'est pour ça qu'on a eu aussi plus de 200 pompiers assez rapidement sur les lieux.
Tous les témoins saluent d'ailleurs le courage des pompiers qui sont montés presque quasiment au milieu des flammes, récupérer de nombreuses personnes réfugiées sur les toits.
Oui, alors les pompiers s'inscrivent dans la dynamique pour sauver, éteindre les feux, prendre en compte ces personnes victimes, mais je salue aussi l'engagement de ces témoins. Parce que c'est dans des situations dramatiques où on perçoit cette solidarité, où chacun, qu'il soit secouriste ou jeune citoyen portant aide à son prochain, peut sauver une vie. Et ça, c'est extraordinaire de pouvoir constater cette bienveillance, cette solidarité, cette générosité dans l'épreuve. Et dans ces moments dramatiques, on le constate, le citoyen est le premier acteur du secours.
Alors comment expliquer cette brutalité, cette rapidité du feu? À votre connaissance, l'immeuble ne présentait aucun signe de vétusté, ou alors c'est parce qu'il y a eu plusieurs départs de feu?
Alors il y a plusieurs facteurs qui expliquent la propagation assez effrayante de cet incendie. Le potentiel calorifique, le fait que cet incendie soit initié volontairement, puisque cette personne a dû donc faire en sorte que le feu prenne de manière significative, et puis ensuite la propagation par l'extérieur, par les façades et par l'intérieur. Cet immeuble est en courette, il n'est pas accessible par nos engins, nos échelles automatiques, et puis les cages d'escalier ne sont pas protégées, comme le demande aujourd'hui la réglementation, mais ça, on fait face à ces situations régulièrement. Les immeubles haussmanniens sont dans ce cas-là, les cages d'escalier ne sont pas protégées, et donc pour nous, la priorité, c'est d'évacuer en sécurité. Et là, je voudrais rappeler un certain nombre de notions de prévention que tout à chacun peut mettre en place. C'est-à-dire que quand le feu a lieu dans son appartement, il faut quitter cet appartement et surtout fermer la porte derrière soi pour éviter que le feu ne gagne la cage d'escalier et se propage. Si le feu a lieu dans la cage d'escalier, il faut surtout ne pas quitter son appartement, se manifester à la fenêtre en appelant les pompiers. Et régulièrement, nous faisons face à ce genre de situation.
Est-ce que les opérations de reconnaissance là sont terminées à votre connaissance?
Non, les opérations de reconnaissance ne sont pas terminées. Il s'agit de reconnaître l'immeuble concerné, mais aussi les deux immeubles contigus, pour être sûr que le feu ne reprenne pas, mais aussi pour être sûr qu'on n'a oublié personne.
Immeubles qui ont été évacués d'ailleurs. Tout à fait autre chose, lieutenant-colonel, l'activité des pompiers de Paris est en forte hausse. L'année dernière, 17% de plus des appels en urgence, 4% d'interventions en plus, 1500 interventions par jour à Paris et dans sa petite couronne. Les explications de cette situation?
2017, c'est 502 000 interventions. 2018, 522 000 interventions. 4% en plus,
on
comme
sait
vous le dites. Et lié essentiellement au secours à personne. 100 000, on estime qu'il y a 100 000 interventions indues, qui ne sont pas motivées. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand les pompiers sont appelés sur ce genre d'intervention, sur ces 100 000 indues, ils ne pratiquent aucun geste de secours. Et mieux, pour la plupart, ils ne transportent pas. Les pompiers de Paris sont là pour l'urgence. Et effectivement, c'est crucial pour nous, c'est crucial pour notre modèle interdépartemental unique des pompiers de Paris, de faire baisser cette sollicitation. Une sollicitation sur cinq ne motive pas notre déplacement, ne motive pas l'urgence, un appel d'urgence, ne motive pas un geste de la part du pompier de Paris. Ça peut provoquer une lassitude, perte de foi chez nos jeunes. Et c'est pour ça qu'il faut que le citoyen soit concerné, ne nous appelle pas pour la fuite d'eau, la cage d'ascenseur ou autre appel non justifié.
Et qu'il vous respecte, puisque je rappelle aussi que le nombre des agressions n'a jamais été aussi élevé contre les pompiers.
C'est paradoxal.
Merci aux pompiers dont le courage a permis de sauver de nombreuses vies, a tweeté tout à l'heure le chef de l'État. Paris est en deuil, a dit la maire Anne Hidalgo, qui s'est donc rendue sur place comme le ministre Christophe Castaner. Une cellule d'aide psychologique a été mise en place à la mairie du 16e. Le numéro d'appel, c'est le 805-200-450. La CGT, la France Insoumise et les Gilets jaunes, ce mardi 5 février, marquera-t-il le vrai début de cette convergence des luttes que Philippe Martinez ou Jean-Luc Mélenchon appellent de leur vœu? Le secrétaire général de la CGT a lancé un appel à la grève nationale pour la hausse des salaires et la justice fiscale, rejoint par le syndicat solidaire, des syndicats Force ouvrière, les Insoumis, le PC et le NPA. Et des gilets jaunes, on va y revenir. De nombreux blocages ont été constatés ce matin au marché de Rungis, très tôt pour commencer, puis sur des ronds-points en Normandie, beaucoup, dans le Gard également. À Lyon, ils ont été plusieurs centaines à défiler, rouges et jaunes, main dans la main. Christophe Vincent.
Oui, Yves, parti il y a une heure de la place Bellecour, le cortège de plusieurs milliers de manifestants arrive actuellement aux abords de la préfecture, rive gauche du Rhône. Un gros dispositif policier les tient à distance. Le préfet leur a interdit la presqu'île et les rues commerçantes, d'où ce parcours inhabituel. Il y a des militants FO, Sud Solidaire, des anarchistes, des gilets jaunes, vous l'avez dit. Mais la CGT représente le gros des troupes. Alain Bourna vient de l'Ain, de la centrale du Bugey, heureux du renfort des gilets.
Tout le monde est bienvenu. De toute façon, 70% des revendications de la CGT, on les retrouve dans les revendications des gilets jaunes. Donc à partir du moment où on défend la même chose, je ne vois pas pourquoi ils ne seraient pas présents. Dans un premier temps, ils nous ont refusé. Nous, on a refusé un peu aussi pour des problèmes d'idées. Il y a énormément de revendications qui sont communes. Et je pense que la convergence des luttes, c'est maintenant.
Au cœur du cortège, on voit donc ces gilets jaunes, mais aussi des doubles chasubles. Le gilet avec l'autocollant CGT. Jean, lui, a carrément quitté le syndicat dont il était délégué.
Je suis déçu par la CGT, qu'elle n'ait pas bougé beaucoup plus tôt. Il faut nettoyer un peu la place politique. J'ai tellement été déçu par les syndicats que j'y croyais plus du tout. J'ai retrouvé une ferveur. Et j'espère que ça va réveiller nos grands dirigeants syndicaux. S'ils ne veulent pas disparaître, il faudra qu'ils se réveillent.
Vous n'êtes pas rancunier, vous êtes avec eux aujourd'hui.
Non, je ne suis pas rancunier, quoi. Je pense que c'est convergent.
Les manifestants envoient actuellement des fumigènes aux abords de la préfecture du Rhône, mais pour l'instant, c'est calme et il fait grand soleil.
Christophe Vincent à Lyon, en rouge et jaune, sous une même bannière, pas évident, on vient de l'entendre. Au départ, en novembre, quand la CGT refusait toute alliance avec un mouvement sorti de nulle part et que l'extrême droite cherchait à récupérer, tout a changé aujourd'hui. Ce mouvement, dont l'une des principales figures, Éric Drouet, est pourtant pour beaucoup infréquentable. Alors, Martinez-Drouet, même combat, qu'en pensent vraiment les militants de la CGT? C'est ce que Maxime Debs est allé leur demander.
Il y a la question de son vote à la présidentielle. Des voix lui prêtent d'avoir voté pour Marine Le Pen en 2017. L'homme assure que non. Puis il y a aussi son interpellation début janvier, provoquée dans le seul but d'attirer l'attention. Pour Laurent Berger, le syndicalisme n'a pas à s'abîmer avec des personnes comme Éric Drouet. Henri, militant CGT, est sur ses gardes, mais tout de même un peu moins tranché.
Berger, il pense ce qu'il veut sur Éric Drouet. Nous, on n'a pas une opinion défavorable. Mais bon, il faut quand même faire attention de là où on va, quoi.
Un seul vœu pieux pour la CGT aujourd'hui, que tout se passe bien, sans débordement. Après l'identité des hommes et des femmes dans le cortège, Robert n'en a finalement que faire.
De toute façon, la CGT, elle peut faire ce qu'elle veut, elle sera critiquée. Toute ma vie, j'ai constaté ces choses.
Au fond, cet après-midi, seul comptera la participation, veulent croire les militants. et peu importe les origines de chacun.
Au-delà des gilets jaunes, rouges, bleus, toutes les couleurs que l'on voudra, il y a ce ras-le-bol de ne pas être entendu et écouté. C'est ni jaune, ni droite, ni rouge, ni bleu, enfin peu importe. Ça correspond à tout le monde.
Quand la colère n'a pas de couleur, que les intérêts se rejoignent, il faudra quand même que tout ça ne parte pas dans tous les sens, prévient un autre militant, qu'on s'entende à un moment sur les revendications si l'on veut gagner des points vis-à-vis du gouvernement.
Et ce matin, les gilets jaunes étaient quand même les plus visibles parmi les manifestants, notamment sur les lieux de blocage comme au péage de Toulouse Nord, occupé quelques heures à Alain Gastal.
L'opération s'appelait blocage de l'économie, mais la centaine de gilets jaunes n'aura finalement réussi à bloquer que le péage nord de l'autoroute A62 à Toulouse. Pendant un peu plus de 4 heures, c'est peu, mais suffisant quand même pour déclencher un bouchon interminable et une grosse pagaille. Sur le périphérique, quelques pneus et quelques palettes pour bloquer tous les camions et laisser passer au compte-gouttes les voitures. Après 2 mois et demi de mobilisation, certains comme Michel veulent relancer le mouvement en le durcissant.
Ce matin, c'est une réussite. On a des renforts qui arrivent de tous les coins de Toulouse. On est à plus de 2000 camions bloqués au péage de Toulouse Nord. Et on continuera le mouvement jusqu'à ce qu'on soit écouté. Aujourd'hui, c'est pas pour une heure ou deux, on ne lâchera pas.
Peu avant 11h, les gendarmes arrivent. Ils sont une centaine, eux aussi, venus des brigades de toute la région. Quelques pourparlers rapides. Et finalement, les gilets jaunes décident d'évacuer.
Qu'est-ce que vous voulez ? Ceux qui s'en foutent, partir, levez la main. Ceux qui s'en foutent, levez la main pour partir. Levez la main, ceux qui veulent partir.
Les gilets sortent donc de l'autoroute et la circulation reprend. Quelques camions klaxonnent, mais beaucoup moins qu'au début du mouvement. Toulouse, Alain Gastal, France Inter.
D'autres blocages ou manifestations à signaler ce matin à Nantes, en direction de l'aéroport à Bayonne, sur le port à Périgueux, Limoges ou encore sur les remparts et devant la préfecture d'Avignon. À l'Assemblée, c'est une loi très controversée qui sera soumise aux députés tout à l'heure, le projet de loi anti-casseurs, dont une trentaine d'élus La République En Marche ne veulent pas. Ils ont déjà dit qu'ils ne la voteraient pas, ce qui ne changera rien au résultat, mais fait un peu désordre. Mais qui sont ces casseurs dont parle le texte? Selon le ministre de l'Intérieur, ce sont quelques dizaines d'individus bien connus, appartenant à des groupes opuscules extrémistes et qui viennent systématiquement tout casser. Parmi eux, des militants d'extrême droite, souvent repérés, c'est vrai, dans les cortèges parisiens, alors même, et c'est tout le problème, qu'ils ont déjà été condamnés par la justice, Sarah Guibaudot.
Oui, samedi 26 janvier à Paris, au milieu des gilets jaunes, des manifestants du NPA, le nouveau parti anticapitaliste, sont agressés par des militants d'extrême droite. Sur les réseaux sociaux, l'attaque est revendiquée par le groupuscule des OAF Paris, héritier du GUD, l'ancien groupe Union Défense. Sur des photos qu'un témoin nous a envoyées, l'un des agresseurs présumés est à visage découvert. Il s'apprête à lancer une barrière de chantier et on reconnaît bien l'un des militants jugés en correctionnel à Paris il y a un mois. Il comparaissait avec 5 autres pour des faits commis le 1er décembre près de l'Arc de Triomphe. Faute de preuves, le tribunal n'a pas retenu toutes les accusations. Le jeune homme de 20 ans a été condamné à 6 mois de prison avec sursis pour entente en vue de commettre des violences et des dégradations. L'un de ses coprévenus avait lui écopé de 3 mois de prison ferme, une peine aménageable. Un brillant étudiant qui apparaît lui sur des photos de samedi dernier, un peu secoué après la manif. Cette fois, l'affrontement a tourné à l'avantage des militants antifascistes venus plus nombreux. Jusqu'ici, en tout cas, ces jeunes hommes n'ont donc pas été découragés par la justice.
En rappelant que le gouvernement, qui voulait ficher les manifestants violents comme les hooligans interdits de stade, a dû reculer sur ce point. Et pendant ce temps, le grand débat se poursuit partout en France, y compris pour le chef de l'État qui a participé hier soir à sa 5e séance en banlieue cette fois, même si lui préfère plutôt parler de quartier. Il était dans l'Essonne, à Évry-Courcouronnes, pour répondre aux questions des élus et responsables associatifs, sans promesses concrètes, si ce n'est pas le but, mais quelques pistes, l'annonce d'un grand plan pour les petites associations et un mea culpa sur les contrats aidés dont la diminution a fait souffrir, reconnaît Emmanuel Macron, qui a également précisé ses pensées sur la loi de 1905, loi de séparation entre l'Église et l'État, qu'il ne veut pas amender mais renforcer, au contraire, ce que n'ont pas manqué de commenter bien sûr ce matin les responsables des culte de France réuni à huis clos à Paris, Julie Pietri.
Le gouvernement veut mieux encadrer le culte musulman, c'est ça son vrai projet, et toutes les religions vont être embarquées dans le même bateau. En coulisses, les représentants des cultes s'interrogent. Si le grand rabbin de France se dit plutôt serein, il est normal que tous les lieux de culte soient inspectés avec la même exigence. D'autres représentants se demandent jusqu'où l'État va aller dans sa volonté de contrôle. Exemple, jusqu'à maintenant, les associations Loi 1905 doivent présenter leurs comptes chaque année. À l'avenir, elles devront peut-être en plus déclarer barrer tout don étranger de plus de 10 000 euros. C'est comme si on nous soupçonnait de quelque chose a priori. Autre exemple, le rôle du préfet. Si demain, une association cultuelle veut déposer ses statuts en préfecture, le préfet pourrait avoir le droit de vérifier que cette association a bien un rapport avec la religion et donc de dire oui ou non à sa création. Or, est-ce à l'État, questionne le protestant François Claveroli, est-ce à l'État de décider de ce qui est religieux et de ce qui ne l'est pas? Ce n'est pas à la République, dit-il, de définir le culte en France. Tous les représentants sont d'accord sur un autre point, la méthode pas satisfaisante. Le texte est quasiment bouclé aujourd'hui et nous n'y avons toujours pas accès. Ils attendent rapidement maintenant un rendez-vous au ministère de l'Intérieur.
À l'étranger, une messe en plein air célébrée par le pape en pays musulman. Encore une première pour le Saint-Père, dont aucun de ses prédécesseurs n'avait visité la péninsule arabique. Mais en plus, dans un pays, les Émirats arabes unis, où la foi chrétienne ne peut se pratiquer qu'à l'intérieur d'une église, célébrer la messe dans un stade, c'était tout simplement inimaginable pour le pape François et les chrétiens du Golfe. Et pourtant, ils étaient 150 000 ce matin dans le grand stade d'Abu Dhabi, Mathilde Imberti.
Non pas que les catholiques aux Émirats soient brimés, des églises sont construites, des messes célébrées dans toutes les langues. Celle par exemple de Noreen, expatriée indienne de 27 ans, mais une célébration au stade a une saveur particulière.
Je n'avais même jamais mis les pieds dans ce stade. Et c'est formidable d'être béni par le pape ici. D'habitude, je vais à la messe le vendredi et le samedi une fois par mois. Je peux même la suivre dans ma propre langue, le Konkani.
L'homélie du pape s'adresse à une communauté catholique constituée d'expatriés, des Asiatiques essentiellement, venus chercher une vie meilleure aux Émirats, riches terres pétrolières.
Pour vous, ce n'est certes pas facile de vivre loin de la maison et de sentir, outre l'absence des personnes les plus chères, l'incertitude de l'avenir. Mais le Seigneur est fidèle, il n'abandonne pas les siens.
Plus politique hier, le pape avait demandé aux autorités d'assurer une liberté religieuse à tous les citoyens. Un message à l'adresse de toute la péninsule, y compris l'Arabie saoudite voisine, où seul l'islam est toléré. Joseph, un fidèle Libanais, s'arme de patience.
Ce qu'on voit ici, c'était dans l'impossibilité avant. Et ce que j'espère bien qu'on va fêter la même chose en Arabie saoudite.
Les conditions ne sont pas encore réunies pour un déplacement en Arabie saoudite, mais le pape François ouvre une brèche avec ce premier voyage de la péninsule arabique. Abu Dhabi, Mathilde Imberti, France Inter.
Dans la chronique santé de ce mardi, bonjour Daniel Messager. Un sujet dont on parle peu et pourtant, les suicides, c'est de ça qu'il s'agit, font 3 fois plus de morts que les accidents de la route. La journée nationale de prévention des suicides, ce 5 février, c'est donc l'occasion de le rappeler.
Oui, et les derniers chiffres publiés aujourd'hui par Santé publique France font état de 10 500 morts par an et plus de 7% de la population entre 18 et 75 ans qui a tenté de se suicider. C'est aux urgences que commence la prise en charge d'une tentative de suicide. Le docteur Livio Yon, chef de service de psychiatrie à l'hôpital Henri Mondor de Créteil.
La prise en charge d'une tentative de suicide passe d'abord par une évaluation médicale physique, notamment par exemple s'il y a une prise de médicaments. Et c'est ensuite que l'équipe de psychiatres des urgences est sollicitée pour évaluer l'état psychologique du patient et le risque de récidive suicidaire.
La prise de médicaments, c'est le geste le plus courant, le moyen le plus courant?
Alors aux urgences, c'est 80-90% des motifs de tentative de suicide. Vous seriez étonné de savoir ce qu'il y a dans la pharmacie des patients et des familles. Pas besoin d'antériorité psychiatrique pour avoir des médicaments et des médicaments éventuellement dangereux à la maison.
Alors comment peut-on prévenir au moins les récidives, Daniel ?
Eh bien, un dispositif existe, Vigilance, à Lille et depuis la fin de l'année dernière à Henri Mondor. Après une tentative de suicide, on fournit aux patients des contacts pour une prise en charge, mais ici, il y a un plus. On lui téléphone, on prend de ses nouvelles quelques jours plus tard. Julien Katz, psychiatre.
On indique au patient que donc on va le rappeler pour prendre de ses nouvelles et réévaluer avec lui le risque suicidaire, qu'on lui remet une carte dite carte de crise sur laquelle est indiqué un numéro vert gratuit, essentiellement en cas d'idée suicidaire ou de détresse psychologique. Les personnes sont plutôt alors surprises d'être recontactées, que quelqu'un se soucie d'eux et s'inquiète pour eux.
Et lors de ce rappel, l'équipe cherche à savoir s'il y a un risque de récidive qui est important pendant les 6 premiers mois. Le patient, grâce à ce suivi téléphonique, est mis en confiance, docteur Livio Yon.
On nous apprend, quand on est psychiatre, à poser les questions de manière douce et posée, bien entendu, mais très directe. Et les patients répondent sans dissimuler d'éléments. Par exemple, monsieur, avez-vous des idées suicidaires? Avez-vous pensé avec quels moyens vous pourriez mettre fin à vos jours? Pouvez-vous me décrire comment vous vous y prendriez?
Alors, il y a parfois des difficultés à trouver une prise en charge.
Effectivement, trop de demandes et pas toujours une réponse immédiate. Yannick Floch, l'infirmier du service.
Les délais de rendez-vous CMP sont à cause des manques de personnel d'environ un mois. En attendant, le patient est hors des radars et malheureusement reste avec ses idées et sa déprime. Je pense que le dispositif, il est utile à ce moment-là, qu'ils se sentent soutenus. Moi, je leur dis souvent qu'on est comme une béquille. Il y a toujours un psychiatre 24 heures sur 24 pour le recevoir.
À Lille, où le dispositif vigilance est en place depuis 3 ans, les tentatives de suicide ont diminué de 23%.
Daniel Messager, coïncidence ou pas, on apprend ce midi que le professeur Christophe Barra, spécialiste de l'obésité, s'est suicidé dimanche à l'hôpital Avicenne de Bobigny. Il luttait depuis plusieurs mois contre une maladie grave, annonce l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Allez avoir au théâtre à Paris pour se changer les idées l'histoire d'une diffamation qui sera d'ailleurs vraiment portée en justice. C'est le monde à l'envers. L'affaire sera jugée au tribunal de grande instance de Caen au mois de mai prochain après avoir été présentée au théâtre. Ce qu'elle raconte, la vie et l'œuvre des frères Barclay, frères jumeaux devenus milliardaires avant-guerre à Londres. Une pièce signée Edith Hillette de Clermont-Tonnerre intitulée Les deux frères et les lions. Et c'est cette pièce que Sir David Barclay voudrait faire interdire. Stéphane Capron.
Le spectacle, créé au Trident à Cherbourg en 2012, a été joué plus de 250 fois. C'est une fiction. Elle raconte l'incroyable ascension de jumeaux, nés dans les bas-fonds de Londres dans les années 30 et devenus milliardaires. En écrivant ce texte, Edith Hillette de Clermont-Tonnerre ne s'attendait pas à se retrouver dans le box des accusés devant un tribunal.
Être attaqué par la 15e plus grosse fortune anglaise avec une batterie d'avocats qui veulent vous faire taire, c'est très inquiétant parce que les demandes sont astronomiques. Des demandes de 100 000 euros, de l'arrêt de la pièce. On est à la fois effrayés et en même temps, la seule réponse que nous avons pour l'instant, c'est de jouer le spectacle jusqu'au 17 mars, c'est de faire notre métier. En plus, la pièce est tendre pour les deux frères. Ils n'ont évidemment jamais vu. Donc la première chose, j'avais envie de leur dire, venez voir la pièce, puis après on en discutera.
La liberté d'expression est en jeu avec ce procès qui touche pour la première fois en France toute la chaîne de la production théâtrale. L'auteur, l'éditeur, les producteurs, les diffuseurs sont au banc des accusés. Tous les soirs, après la représentation, Edith Hillette de Clermont-Tonnerre engage le débat avec les spectateurs avant de défendre sa position à la barre en mai au tribunal de Caen.
Eh oui, la réalité dépasse la fiction, c'est connu. Les deux frères et les lions, c'est au théâtre de Poche, Montparnasse, à Paris, jusqu'au 17 mars. Le temps.
La météo à toutes jambes avec Bleu Forêt, le fabricant français de collants élégants. Noir ou vert, prune ou rouge, de toutes les couleurs. Fin ou opaque. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Élodie Calac, calme et plus doux.
La perturbation s'est isolée vers le sud-ouest où quelques pluies résistent. On trouve aussi un peu de pluie sur l'ouest de la Bretagne avec du vent. Sur les autres régions de l'ouest jusqu'au Pas-de-Calais, à l'ouest de la région parisienne, du centre et du massif central, ça reste très encombré. À l'est, c'est mieux. De l'Auvergne aux Ardennes, on a des éclaircies. Un soleil plus franc de la Méditerranée vers Rhône-Alpes, la Lorraine et l'Alsace. Les températures en hausse se rapprochent des moyennes de saison. 7 degrés à Lille et Metz, 8 à Tours, Aurillac, Grenoble, 9 à Paris, 11 degrés à Cancale, Nantes, Toulouse, 13 à Bayonne, 15 à Bastia et 16 pour Perpignan. Demain, ce sera encore frais dans l'Est le matin avec des gelées, quelques brouillards givrants possibles. L'après-midi, ce sera doux, 7 à 18 degrés attendus. On aura pas mal de nuages, de la pluie près de la Manche, mais du soleil du sud-est au nord-est.